Il est 16h à Paris et 15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. À la une, la situation en RDC. Finalement, le sommet entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'aura pas lieu. Alors que le M23 et l'armée rwandaise progressent toujours à Goma, la situation reste tendue à Kinshasa, où l'on retrouvera notre correspondant dès le début de ce journal. En Inde, une bousculade lors d'un pèlerinage a fait 30 morts et le bilan reste très provisoire. Enfin, la sélection pour les Césars en France a été dévoilée aujourd'hui. Le film Le Comte de Monte Cristo rafle 14 nominations, suivi de près par L'Amour Ouf et Emilia Pérez, qui continue son aventure à l'international. Félix Tshisekedi ne participera donc pas au sommet avec Paul Kagame, une annonce de Kinshasa, alors que les présidents de la RDC et du Rwanda devaient se retrouver aujourd'hui pour évoquer la situation à Goma. Le M23 et l'armée rwandaise progressent dans la grande ville de l'Est. Les combats ont déjà fait plus de 100 morts et près d'un millier de blessés. Patient Ligaudy, vous êtes en direct de Kinshasa. Dans la capitale, la tension reste élevée après les violentes manifestations hier devant plusieurs ambassades.
Oui Karine, à Kinshasa la situation reste tendue mais sous contrôle. Cet après-midi encore, la police et l'armée ont été déployées en masse autour des ambassades pour empêcher tout nouveau rassemblement. Les tentatives de manifestation de la matinée ont été rapidement dispersées. À la mi-journée, la capitale a retrouvé un calme relatif, mais les grandes artères portent encore les stigmates des tensions, avec des restes des pneus brûlés et des routes partiellement obstruées. Côté transport, plusieurs vols en provenance d'Europe ont été annulés. La Belgique, par exemple, par mesure de précaution, déconseille à ses ressortissants de se rendre en RDC pour l'instant. À Goma, la situation humanitaire devient critique. Aujourd'hui encore, des corps sans vie étaient visibles dans certains quartiers. Un véritable défi sanitaire dans une ville déjà fragilisée par les précédentes épidémies donc de choléra. L'hôpital Sébécane d'Ocho est débordé. Hier, en une seule journée, 110 blessés ont été admis. Aujourd'hui, l'établissement accueille 425 patients pour seulement 146 lits disponibles. Depuis le début du mois, plus de 820 blessés par arme ont été donc pris en charge, dont 485 civils. De son côté, Médecins sans frontières tente de renforcer ses équipes et de réapprovisionner également les stocks médicaux. Pour les humanitaires sur place, face à cette crise, l'urgence est double. Évaluer les besoins médicaux et sécuriser les structures de santé avant de redéployer les services de santé. Les acteurs humanitaires cherchent à clarifier la situation sécuritaire et surtout à identifier les autorités réellement en contrôle de la ville.
Patient Ligaudy en direct de Kinshasa et l'Angola dans un communiqué demande comme médiateur un retrait immédiat du M23 et des troupes rwandaises du territoire congolais. Leur départ est effectif aujourd'hui après plus d'une année de tensions. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso quittent officiellement la CEDEAO. Les trois pays sont désormais unis dans une confédération, l'Alliance des États du Sahel. Ils accusent l'Organisation d'Afrique de l'Ouest de leur avoir imposé des sanctions après les putschs militaires. La CEDEAO, elle, dit vouloir maintenir la porte du dialogue ouverte. En Inde, une bousculade pendant un pèlerinage a fait au moins 30 morts et 90 blessés. Présenté comme le plus grand rassemblement religieux de tous les temps, le festival dans le nord du pays, dans l'état de l'Uttar Pradesh, réunit pendant 6 semaines des dizaines de millions de fidèles. Le récit de Carlota Morteo.
L'incident s'est déroulé dans la nuit vers 1h du matin. Une foule compacte de 10 000 personnes environ marche vers les berges et les pontons à la confluence des eaux du Gange et du Yamuna pour effectuer le bain rituel de purification. Mais malgré l'important dispositif mis en place pour orienter les flux, certains se sont visiblement retrouvés agglutinés avec des difficultés pour respirer. La panique a déclenché une bousculade. Des femmes, des personnes âgées sont tombées et se sont fait piétiner. Les secours sont rapidement intervenus, mais la Mahakumbh Mela va durer encore un mois. 400 millions de visiteurs sont annoncés. C'est un événement religieux qui est aussi une vitrine politique pour le gouvernement nationaliste de Narendra Modi. Plus de 800 millions d'euros ont été dépensés pour sécuriser le site, construire des routes, des ponts, des toilettes. Alors ce matin, dans la foulée de l'accident, les critiques n'ont pas traîné. L'opposition a mis en cause les privilèges et la préférence accordée aux personnalités qui ont payé cher leur place plutôt qu'aux simples fidèles. Sur les réseaux sociaux, certains dénoncent quant à eux le manque de panneaux d'information dans d'autres langues que le hindi ou l'usage de la force par la police pour contrôler les foules.
Pour la première fois depuis le cessez-le-feu, un bateau d'aide humanitaire a transité par le port égyptien d'Al-Arish. Un navire turc chargé de plus de 800 tonnes de matériel, de tentes et de couvertures pour les Palestiniens de Gaza. L'aide sera ensuite acheminée vers l'enclave palestinienne. En revanche, pas question d'accueillir des Palestiniens déplacés de force. C'est une fin de non-recevoir du président égyptien. Abdel Fattah al-Sissi déclare que tout déplacement forcé des Palestiniens serait une injustice à laquelle son pays ne pourrait pas participer. Le président américain avait évoqué la possibilité d'expulser les Palestiniens vers la Jordanie et vers l'Égypte. Plus au nord, le cessez-le-feu avec le Liban reste aussi très précaire. L'armée israélienne devait se retirer du pays dimanche dernier, mais le délai a été prolongé jusqu'au 18 février. Deux frappes israéliennes ont fait 24 blessés hier dans le sud du pays. Israël affirme avoir visé deux véhicules transportant des armes du Hezbollah. Aux États-Unis, c'est l'un des premiers actes du nouveau département de la sécurité intérieure et c'est une info du New York Times, la suspension du TPS pour les Vénézuéliens présents sur le sol américain, le TPS ou statut de protection temporaire. C'est un dispositif à visée humanitaire qui bénéficiait jusqu'ici à plus de 600 000 citoyens du Venezuela exilés aux États-Unis. Vincent Sorio, bonjour.
Bonjour.
Ce statut les protégeait d'une expulsion.
Oui, Joe Biden avait pris soin à la toute fin de son mandat de prolonger ce TPS jusqu'en octobre 2026 pour les ressortissants du Venezuela. Eh bien, c'est terminé. Christine Noem, la nouvelle ministre de l'Intérieur nommée par Donald Trump, vient de révoquer cette extension, ce qui laisse potentiellement sur le carreau ces centaines de milliers de personnes qui résidaient et travaillaient aux États-Unis, parfois depuis plusieurs années. Potentiellement parce que cette décision sera peut-être contestée en justice, mais si elle est maintenue, d'ici quelques semaines, tout au plus quelques mois, ces citoyens vénézuéliens seront susceptibles d'être arrêtés et reconduits dans leur pays d'origine. Ce TPS, c'est un système temporaire, beaucoup plus léger que l'asile. On vous accorde des papiers pour une période maximale de 18 mois, mais renouvelable. Sous l'administration précédente, la porte était ouverte aux citoyens de plus de 15 pays en difficulté, y compris Haïti, l'Afghanistan, le Cameroun, le Liban, la Syrie ou l'Ukraine. Le Venezuela vient de sortir de cette liste et il faut s'attendre très vite, Karine, à de nouvelles restrictions.
Vincent Sorio du service international d'RFI. Les Européens veulent rattraper leur retard dans la compétition mondiale face aux États-Unis et la Chine. Bruxelles a dévoilé son plan de compétitivité. Ursula von der Leyen souhaite relancer le moteur de l'innovation. Choc de simplification administrative, baisse du coût de l'énergie, autant de chantiers prévus pour aider les entreprises européennes face à la concurrence internationale. Pas question de renoncer aux engagements environnementaux pour autant, promet la présidente de la Commission européenne, alors que les écologistes craignent un détricotage des lois climatiques. En France, la vigilance rouge aux crues est maintenue dans plusieurs départements de l'Ouest. L'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Et les inondations risquent de s'aggraver avec la nouvelle dépression Ivo qui provoque déjà de fortes pluies. Le comte de Monte Cristo est en tête dans la course au César. La cérémonie aura lieu le 28 février prochain. L'adaptation du livre d'Alexandre Dumas totalise plus de 14 nominations devant L'Amourouf et Emilia Pérez. L'année 2024 a été faste pour le cinéma français. Olivier Roger.
Et les trois succès populaires qui ont largement contribué à relancer l'industrie du cinéma dans l'Hexagone l'an dernier sont en tête des nominations. 14, rien que pour Le Comte de Monte Cristo, L'Histoire de Vengeance aux 9 millions d'entrées en salle. Et le grand favori de la compétition et le comédien Pierre Niney est en lice pour le César du meilleur acteur. Autre succès populaire, L'Amour Ouf de Gilles Lelouch avec le duo Adèle Exarchopoulos-François Civil. Il est en lice dans 13 catégories dont celle du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Enfin, le film français qui fait le plus parler de lui dans le monde, la comédie musicale de Jacques Audiard, est en course dans 12 catégories. Emilia Pérez, où la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain, a déjà été plébiscitée aux États-Unis et devrait l'être encore lors de la prochaine cérémonie des Oscars à Hollywood. Jacques Audiard, qui a déjà remporté 10 Césars dans sa carrière, est en course pour la récompense du meilleur réalisateur. Enfin, le film de Boris Lochkine, L'histoire de Souleymane, sur l'odyssée tragique d'un sans-papier guinéen à Paris, est en lice dans 7 catégories, dont celle de la meilleure révélation masculine pour l'acteur Abou Sangaré.
Un mot de foot et la dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. Ne manquez pas la soirée spéciale sur RFI à 19h40, temps universel, tout de suite sur le Pont des Arts avec vous Nathalie Amard.
Merci Karine Bellicha et à tout à l'heure.